Donc, bonjour, bonjour, bienvenue à Quoi de neuf podcast. Premier podcast depuis 2020, c'est vraiment un retour en force aujourd'hui, ce matin, ce samedi matin. Je suis très content d'accueillir Christian Genet, qui est le boss du Ampère Academy, le centre de boxe où est-ce que je m'entraîne. Il est aussi propriétaire du Bouddha Station, qui est une nouvelle chaîne de restauration santé et tout. Là. Dans le fond, il va pouvoir nous en parler plus profondément. Puis là, aujourd'hui, on va faire comme le défilé de sa vie, là, en gros, là, à partir de sa naissance jusqu'à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Très content de l'avoir avec moi. Fait que, salut Christian, comment ça va?
Salut, ça va super bien. Merci de l'invitation. Ben. J'adore ça, faire des podcasts, fait que c'est cool.
C'est bon, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ce qu'on disait avant, là, Christian, qui regarde qui écoute beaucoup de podcasts. Moi de même, fait que on s'entend bien là-dessus. On va commencer avec une question un peu rude, un peu rough. T'es né où? Quand? T'as quel âge en ce moment? Puis qu'est-ce qui faisait tes parents dans le temps? Okay. Quel job?
En partant, je m'appelle Christian Genet. Ouais. J'ai 44 ans. Je suis le père d'une grande fille de 20 ans maintenant. Je suis un maniaque de ski, de boxe. À en avoir maintenant fondé un OBNL que tu connais, le Centre Empire. Je pense que la vie est tellement courte qu'il faut faire minimum une folie par jour. C'est mon dicton.
Parfait.
Je suis né à Québec, Saint-Sacrement Hood, qu'on appelle, d'une famille qui est très atypique.
OK.
J'étais le mouton noir de la famille.
OK.
Et malgré ça, je suis la personne qui, dans la vie, a évolué puis a eu une carrière, contrairement à mes deux frères qui ont une vie très spéciale.
Okay.
Sans rentrer dans le détail, j'ai mon grand frère qui n'a jamais vu ma fille qui a 20 ans.
Ah ouais.
Moi, ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas vu mon grand frère.
Ah ouais.
Mon petit frère est un joueur pathologique.
Okay.
Donc, il prend souvent des vacances très, très longues, okay. Si tu vois ce que je peux dire.
Ouais.
Pas notre genre de vacances à toi et moi.
OK.
Mon père étudiait en théologie, imagine.
OK.
Trois semaines avant d'être ordonné prêtre, a rencontré ma mère. Il était en mission avant d'être ordonné prêtre. Il a rencontré ma mère, il a défroqué.
OK.
Ils se sont mariés, ont eu trois enfants, mais dans son cœur, il a toujours été un curé.
Ah, oh, ouais.
Je me rappelle quand j'étais petit cul, à l'adolescence même, là, préadolescence, 13 ans, quand je voulais faire fâcher mon père, là, je disais « Oui, monsieur le curé ».
Ah ouais?
Ben, quand il me parlait, j'avais tout le temps l'impression que c'était un sermon, là, tu sais, comme quand on allait à l'église. Mais là, quand il avait fini, je disais « Amen ». C'était bon. Le truc pour le faire sortir de ses gonds, c'était fou.
Fait que dans le fond, ton père était dans la religion catholique. Ta mère, elle faisait quoi?
Ma mère a été secrétaire pendant des années. Puis quand elle a eu mon grand frère, elle était femme au foyer.
Okay.
Puis à l'époque, c'était mes parents ont 77 ans.
Ouais.
79, 77. Fait que tu sais, à l'époque, c'était d'actualité.
Ouais, c'est ça. OK. T'habitais dans quel coin? T'habitais dans Montcalm?
C'est ça, Saint-Sacrement, qui est qui est un peu avant Montcalm. Là. Si on va, mettons, de Sainte-Foy vers le Vieux-Québec, Saint-Sacrement, c'est comme le quartier avant Montcalm.
Ouais.
J'aime dire que j'ai eu trois chances dans la vie.
Okay.
Je crois pas à la chance.
Ouais.
J'aime dire que j'en ai eu trois. Un, d'être né au Canada, parce que je pense que c'est vraiment une chance.
Mm-hmm.
Deux, d'être en santé et d'en prendre soin.
Ouais.
Puis trois, d'avoir un TDAH.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que ça me rend vraiment sexy.
Ça te rend différent.
C'est une farce. J'aime dire que être sexy dans la vie, là, ça n'a pas rapport avec la quantité de peau qui sort de ta chemise ou de tes fesses. T'sais.
Mm-hmm.
C'est être capable de regarder les gens dans les yeux, être capable de serrer la main de manière forte, d'être capable d'avoir les épaules droites, de regarder dans les yeux, de s'assumer, même quand on sent qu'on est nerveux. Être capable d'écouter, de s'intéresser aux autres. Ça, pour moi, c'est être sexy, tu sais. Mais pas de farce, définitivement, mon TDAH me rend très curieux, très créatif, et j'essaie de le maximiser.
Parfait. Puis, dans le fond, quand tu étais jeune, là, ta famille, est-ce que tu étais pauvre, riche? Comment ça se passait? Est-ce que tu avais une belle relation avec ta famille?
Ben, mon père a travaillé au gouvernement toute sa vie. Fait qu'on avait un milieu de vie, là, disons, moyen-bas.
Okay.
Par exemple, c'était d'actualité que je mettais les sautes de neige de mon frère, puis quand mon frère avait des patins neufs, j'avais ses vieux patins, puis on allait à l'école publique.
T'es allé à quelle école?
Je suis allé à l'école Saint-Sacrement au primaire.
OK. Okay.
Et ensuite de ça, je suis allé au secondaire au petit séminaire de Québec.
Okay.
J'ai commencé, en fait, ça se croise, là, j'ai commencé moi à nager en cinquième année au primaire. Mm-hmm. Mon père avait vraiment identifié que j'étais turbulent puis j'avais beaucoup d'énergie. Ce que plus tard, on découvert que c'était un TDAH. Fait qu'il m'avait poussé dans le sport. J'aimais beaucoup ça. Fait qu'au secondaire, j'ai eu une bourse.
Okay.
Ça m'a permis de payer les frais d'admission.
C'est cher, les écoles privées.
Exact. À l'époque, c'était cher. Mes parents n'avaient pas les moyens. Ça m'a permis d'aller au secondaire. Tout le secondaire, j'ai nagé. J'ai nagé matin et soir. Là. On avait un entraînement le matin à 5h du matin jusqu'à 6h30.
Ouais, ça a l'air rough. Là. J'ai beaucoup d'amis en sport-études, natation, puis ils s'entraînent matin et soir. Ouais.
Beaucoup d'heures. Fait que j'ai nagé pendant tout le secondaire puis même une partie du cégep.
OK.
J'ai fait mon cégep ensuite de ça au cégep Sainte-Foy. J'ai étudié en administration.
OK. T'avais pris... au secondaire, t'avais fait chimie physique.
Ouais.
Puis t'as réussi à aller en administration au cégep.
Au cégep. Okay. Puis quand j'ai fini le cégep, j'avais dit à mon père, « Père, j'ai travaillé à temps partiel, j'ai des sous, je veux partir en voyage autour de la planète.
Ah, » Fait
que je voulais partir un an. Là, j'avais dit à mon père, « Tu sais, si j'ai plus d'argent, à un moment donné, je vais travailler, je vais repartir, je vais m'organiser. » Puis mon père avait dit, « Tu sais, si tu veux que je t'aide, si tu veux rester à la maison, puis si tu veux que je t'aide pour tes études, c'est là, il n'y a pas de voyage. » Puis écoute, à cette époque-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. D'ailleurs, je ne sais pas plus. Okay. Je te rassure. et là, mon père m'avait dit, « Ben, tu sais, fais un bac en droit, c'est général. Après ça, tu feras un autre bac puis une maîtrise. » Tu sais. Alors, je suis rentré en droit un peu par pression de mes parents. J'ai toujours haï le droit.
OK, mais dans le temps, t'aimais tout ça à l'école? T'étais-tu prêt à faire « OK, je vais passer probablement 7 ans à l'université pour faire bac, maîtrise? »
Non, j'étais juste perdu. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Okay. D'ailleurs, je trouve que ça vient vite pour les jeunes.
Ouais.
Les choix à faire au secondaire sur des choses quand même impliquantes, là, les sciences, les maths fortes, et ci et ça, puis après ça, au cégep, ben moi, je le savais pas. Écoute, je rentrais à l'université et je ne savais pas tant ce que je voulais faire. Fait que je suis rentré en droit en 96.
À l'Université Laval. Okay.
Exact. La journée 1, j'ai haï ça.
Ah ouais?
Ouais.
T'as continué combien de temps?
J'ai fait mon droit. J'ai eu mon bac en droit.
L'as tout fait?
Ouais, j'ai eu mon bac en droit. Mais je t'explique, j'étais en forte opposition avec mon père, on s'entendait pas bien. Okay. Mon père était un gars sérieux, puis il me voyait tout le temps comme le mouton noir. J'ai tout le temps eu dans ma vie un besoin de liberté immense. Fait que je m'étais dit, je vais me trouver une job à temps partiel, puis quand je vais rentrer à l'université, mon père va m'aider pour mes études, moi je vais me trouver une job, puis je vais partir en appartement.
Okay.
Fait que là, je m'étais dit, tant qu'à travailler, je vais me trouver une job. Maximiser le cash que je peux faire versus les heures. Fait que je travaillais dans un bar de danseuse.
Ah oh, ouais.
En 96, comme portier à l'époque. Okay. Et puis rapidement, là, après 6 mois, on m'a offert le job d'être gérant dans le club de danseuse.
Ah oh, ouais.
Fait que, tu sais, peut-être que Loïc, t'as pas connu ça, là, mais mettons, en 97, à Québec, c'était la guerre des motards. Là.
OK.
À Québec même, il a dû avoir, 17, 20 morts.
Ah, oh, ouais.
C'était c'était vraiment l'épicentre de la guerre des motards.
Okay.
Au Québec. Moi, j'étais gérant dans un club de danseuses où je travaillais 4 nuits par semaine.
T'étais à quel de bord de danseuse?
Écoute, au départ, ça s'appelait le Grand Prix.
Okay.
Ça s'est appelé après ça le Victor Victoria.
Okay.
Puis après ça, ça s'est appelé le Lady Marianne.
OK, c'est le Lady Marianne, OK.
Et puis, tu sais, pendant que j'étais là, même, on avait eu une bombe.
Ah ouais?
Le bar avait explosé en feu. Ça faisait 10 minutes que j'étais parti, que j'avais mis le système d'alarme. On avait eu un incendie où le deuxième étage était écroulé complètement.
Mon Dieu.
quasi... écoute, on a été fermé 2 mois pour okay. tout rebâtir. Puis à l'époque, j'avais 21 ans. La propriétaire, entre guillemets, du club mm-hmm. de danseuses était à l'hôpital, elle. Alors, c'est moi qui négociais après ça les entrepreneurs pour faire les travaux puis rebâtir okay. le club et tout. Fait que j'ai baigné là-dedans, je te dirais, pendant 4 ans. J'ai pas été le gars qui allait aux parties de faculté mm-hmm. puis qui allait aux Law Games ou à des trucs comme ça parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ben je commençais à 6 h le soir puis je finissais à 4 h du matin. Là.
Puis t'aimais-tu ça d'être responsable puis d'être comme le boss du Lady Marianne? T'aimais-tu ça avoir le contrôle puis tout gérer l'équipe? Là? C'était-tu quelque chose que t'aimais déjà ou que c'est venu avec le temps?
J'aimais avoir des objectifs précis, tu sais, puis okay. leader une équipe, j'aimais ça.
OK.
Puis tu sais, j'étais le gars idéal dans ce milieu-là parce que tu comprends que je venais d'un milieu de la natation, je m'entraînais, j'étais droit, ouais. je prenais zéro alcool, j'ai jamais pris de drogue de ma vie.
Okay.
Fait que j'étais comme la personne parfaite parce que c'était mm-hmm. dans un milieu où...
Ouais, c'est ça peut être tout croche.
Écoute, ouais. c'est tout croche, ouais. pour te le dire. Et puis, à un moment donné, là, j'étais devenu sur un espèce de respirateur artificiel où tu te poses plus la question, mm-hmm. tu sais, t'es comme baigné là-dedans. C'est comme t'as atteint un train de vie aussi au niveau financier. J'allais à l'école en même temps. C'était comme une vie qui n'était pas normale, ouais. tu comprends?
Okay.
Puis j'ai, malgré tout ça, fait mes études à l'université en droit. À l'été 98, le gars qui était un peu mon ange okay. dans le domaine, tu sais, quand ça se corsait, là, puis je devais être backé par quelqu'un, tu sais, d'un club de motards,
mm-hmm.
c'était Jeff.
Okay.
Jeff, c'était un très haut placé, mettons, dans la hiérarchie.
Puis, dans le fond, là, tu parles des motards. Est-ce que à ton bord, il y avait des motards qui venaient puis qui vous surveillaient? Ou est-ce que vous étiez allié avec une gang de motards ou non, vraiment pas? Là?
Au Québec, là, tu peux pas avoir un club de danseuses et ou avoir des danseuses si t'es pas affilié, détenu okay. ou accoquiné de très près.
Ah oh, ouais.
Les clubs de danseuses, c'est contrôlé par les motards.
OK.
Les agences de danseuses qui envoient des danseuses, c'est contrôlé par les motards. Tout ce qui se passe dans un club de danseuses aussi est fortement influencé par okay. Les motards.
Puis, t'as-tu déjà eu peur pour quelque chose par rapport aux motards ou ils ont toujours été calmes puis ils ont toujours été respectueux envers le club?
Ça a été très rocambolesque.
OK.
Et puis, ce que j'allais te dire, mon ange Jeff, qui était devenu un ami, mon meilleur ami d'ailleurs,
okay.
Est mort à l'été 98. Puis en fait, il s'est fait assassiner.
OK. Puis parce qu'il était en motard?
Ouais.
OK.
Puis on m'a raconté de A à Z ce qui s'est passé.
Ah oh, ouais.
La journée qu'on m'a raconté ça, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille.
Ben,
ça
ouais.
s'est passé à la seconde même.
Ah oh, ouais.
Fait que... À l'été 1998, j'ai levé les pattes de là. Je suis allé à Vancouver. Puis j'ai fini ma dernière session de droit à UBC. Okay. Je payais mes frais mes frais de scolarité ici à Laval. Puis j'ai fini mes 4 derniers cours à UBC okay. à l'époque. Le temps de me faire oublier, de me refaire une santé mentale, puis de un peu me recadrer aussi sur qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal, qu'est-ce qui ne marchait pas?
Mais là, t'es-tu parti du Québec parce que tu avais peur ouais. pour ta vie ou t'es parti du Québec pour juste oublier ça?
Je suis parti du Québec parce que j'avais peur définitivement pour
okay.
ma vie.
Oh, OK, ouais.
ouais. Je me suis caché pendant 4 mois facile. Là. J'avais vraiment peur.
Ah oh, ouais.
Vraiment peur.
Parce que t'étais-tu ciblé ou...
Non, mais j'en savais beaucoup.
OK.
C'était j'étais pas ciblé, j'étais pas... j'avais rien fait de mal, mais j'en savais beaucoup.
OK, ouais.
Fait que c'est ça qui me rendait à risque, tu comprends? Puis Jeff, c'était mon meilleur ami, il venait de se faire passer, c'était... Ouais.
Puis quand t'es parti aux États-Unis à ce moment-là.
Je suis parti à Vancouver.
OK, Vancouver. T'es parti à Vancouver, puis ton père, il a réagi comment quand t'es parti à Vancouver? Est-ce qu'il était. Il t'a dit OK, tu peux partir, ou il était un peu plus froid à l'idée que tu partes faire tes études à Vancouver?
C'est une discussion que j'ai jamais tant eue avec lui. Ça a été vraiment tough, ma sortie de là. Mm-hmm. Mes parents ont même été menacés.
Ah ouais.
Je pense qu'ils étaient contents que je parte.
OK.
Je pense que c'était mixed feeling. Ils étaient contents. En même temps,
il a voulu que tu restes
stressé.
Un peu.
Ouais. Non, mais il était stressé. Puis il avait hâte que ça finisse. Puis il a eu peur aussi. Ma mère a eu un choc nerveux de tout ça. Okay. Puis, ouais.
Puis là, dans le fond, là, ton expérience au bord de danseuse, c'était ta première expérience en tant que boss. On peut, tu sais, t'étais boss là-bas.
La première mauvaise expérience.
Ouais, probablement. Ouais, mais pareil, ça reste une expérience.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que t'as continué à Vancouver avec une job, ou c'est en revenant au Québec que t'as décidé de prendre une nouvelle job, là?
Je m'étais trouvé un petit travail à Vancouver, effectivement. J'étais serveur dans un resto de sushi.
OK. Ah, oh, OK. C'est de là que ça vient.
Voilà.
Fait que après t'es allé en Vancouver, t'as fini tes cours là-bas. Qu'est-ce que t'as fait après?
Ben là, je suis revenu au Québec.
OK.
J'étais rendu au moment où je devais faire un stage dans un bureau d'avocat avant d'aller, après ça, faire le barreau.
OK.
Tous ceux qui travaillent en droit, là, à un moment donné, quand ils ont fini le bac, ils doivent aller soit à la chambre des notaires pour devenir notaire, ou soit faire le barreau pour avoir justement le titre, être capable de pratiquer le droit. Puis là, il y avait un stage à faire avant, l'été d'avant. Puis j'ai fait un stage 2 jours dans un bureau d'avocat.
OK. Puis t'as abandonné après?
Ça a comme été le déclic qui m'a dit « Je serai jamais heureux dans ce milieu-là. Okay. J'ai horreur de ça. J'ai tout le temps eu horreur de ça. C'est pas pour moi. » Fait que la deuxième journée, j'ai dit « Garde, c'est terminé. » Je suis parti de là, sans aucun plan de match. Je suis rentré chez nous, j'ai dit « C'est terminé. »
Puis t'as fait quoi après?
Ça a été un concours de circonstances où j'avais invité des amis que j'en avais très peu à l'époque, parce que tu comprends que j'avais disparu, là. Ben, en fait, c'est que durant l'université, j'avais pas d'amis comme quelqu'un de normal qui va à l'université.
Ouais.
J'étais dans un milieu qui était totalement pas le mien, là, le milieu du crime organisé pendant 4 nuits par semaine. Puis ben après ça, là, je me suis sauvé à Vancouver.
Ouais.
Fait que mon cercle d'amis, tu sais, j'en avais plus. Tu sais. Mais un couple d'amis que j'avais invité à la maison, puis je voulais leur faire découvrir des sushis. Je les avais invités chez moi, puis je m'étais mis à cuisiner des sushis. J'avais jamais appris ça, mais j'en avais tellement vu. Tu sais,
ouais.
J'en avais tellement vu, servi, tellement vu des cuisiniers en préparer que pour moi, ça avait comme été simple, là, que j'en ai fait. Puis à l'époque, c'était zéro connu à Québec.
Mm-hmm.
Fait que j'avais invité des amis à manger, puis ils ont tellement trippé que ça a fait jaillir en moi l'idée de dire « Crime, à Québec, c'est compliqué se faire livrer de la bouffe autre que du poulet puis de la pizza.
Ouais, » ouais.
Je pourrais me partir une petite business, essayer de me partir une petite business dans le domaine du sushi.
Okay.
Il n'y a pas ça à Québec vraiment, il y avait juste le métropolitain sur quartier.
Ouais.
C'est pas connu. Puis dans l'Ouest, c'est la folie, là. Tu sais, tout le monde capote là-dessus. Ouais. Il y a peut-être quelque chose.
OK.
Fait que c'est, le déclic, ça a été ça.
OK. Puis t'as commencé comment, là, ta business?
J'ai commencé par trouver un nom.
Et OK, là, t'as vraiment cherché le nom avant?
Exact, parce que et de là, j'avais pas pignon sur rue.
OK.
C'était dans mon 3,5 dans mon appartement sur la rue Cazot.
OK.
Et... j'avais pas de sous, j'avais pas une scène, j'avais aucune expérience. Fait que je me suis dit, je vais faire juste la livraison.
Okay.
Fait que je suis allé me chercher un numéro de cellulaire. Et puis, à l'époque où les cellulaires étaient épais de même, puis avec une batterie que tu devais changer en arrière, je prenais des mini-annonces dans le journal Voir, qui est un journal distribué une fois par semaine à Québec, plus culturel, disons.
Ouais.
Sushi Taxi, avec mon numéro de téléphone.
Okay.
Puis là, je disais, faites-vous livrer autre chose que du poulet, découvrez les sushis. Fait que la business était dans mon appartement, puis tout tenait sur mon cellulaire.
OK.
Puis les gens, écoute, c'était long, là. Tu sais, tranquillement, pas vite, les gens appelaient. Puis là, je leur disais, ben si vous êtes au bureau où vous avez accès à un fax, Là, on est en 99, okay. Là, tu sais. Je peux vous faxer le menu. Sinon, dites-moi combien vous êtes, qu'est-ce que vous aimez dans les poissons, qu'est-ce que vous aimez pas. Puis je vais vous faire un assortiment.
OK.
Fait que j'aime dire que ma première vraie job, ça a été d'être comédien.
Ouais.
Parce que les gens appelaient. Puis là, je disais, ben attendez, madame, je consulte le chef, voir qu'est-ce qui reste, puis je vous reviens. Guess who was the chef, tu sais? Puis là, ben je faisais une commande pour un client, j'embarquais dans ma voiture, puis j'allais la livrer.
Okay.
Dans mon taco, dans mon taco. Et puis, mon téléphone sonnait. Là, je disais, attendez un instant, je vais vérifier, madame, avec le livreur, il est à quel endroit, puis dans combien de temps je pourrais vous faire livrer, je vous reviens. C'était moi, le livreur. Puis dans un moment où, justement, tu sais, l'argent de plastique, ça n'existait pas.
Ouais.
Fait que c'était tout le temps un stop au dépanneur pour chercher du change parce que j'avais pas de sous et j'avais pas de change pour donner du change au monde. J'ai parti ma business de cette façon-là, sushi-taxi.
Sushi-taxi. Fait que c'était toi qui faisais juste la livraison. Après avoir fait ça, là, ça a dû upgrader en termes de popularité. C'est quoi le déclic là, qui a fait qu'à un moment donné, ça a fait bon, c'est plus moi, ça doit plus être moi le chef, je dois trouver autre chose, je dois trouver une place, je dois trouver un endroit pour accueillir Sushi Taxi. C'est quoi qui a fait?
Ben, en fait, j'étais dans mon appartement, puis là, le volume avait monté un peu, pas mal, puis on était, tu sais, j'ai parti ça, mettons, sur la fin de l'été. Hiver 99, j'avais de la misère à ouvrir mon frigidaire puis trouver une tranche de pain parce qu'il y avait juste des affaires de sushi. Mon appartement était embué et sentait le vinaigre de riz à temps plein. J'étais plus capable, là, ça me levait le cœur. Fait que je m'étais dit, ben je vais essayer de me monter une route pour m'amener des revenus récurrents. T'sais. Fait que j'en vendais à des poissonneries puis à des épiceries chaque semaine.
Mm-hmm.
Puis j'avais rencontré un poissonnier qui s'appelle Miville Deschaines, qui était le gars qui m'a donné ma première chance en affaires.
Okay.
Une poissonnerie qui s'appelait la poissonnerie Jean-Pierre au coin de la rue Cartier puis Crémazie.
Okay. Ouais.
Puis j'avais proposé, j'avais dit, ben monsieur Simard, on s'entend bien tout ça. Auriez-vous de la place à m'accueillir? Puis je pourrais me faire construire un petit comptoir. Puis tout va transiter par votre caisse, puis je vais vous donner 10% de mes ventes.
Okay.
Fait qu'il a accepté, puis je me suis installé là. Je te dirais au printemps, je me suis installé là, mettons, en mars 99,
okay.
où je faisais partie de la poissonnerie Jean-Pierre. Je m'étais mis un petit comptoir, ça s'appelait Sushi Taxi. Puis là, ben, ça me faisait bénéficier du flow un peu de la rue Cartier,
ouais.
Mais aussi du flow de clients qui aimaient déjà le poisson parce qu'ils rentraient dans la poissonnerie. Ça a été ça. Ça a été, le entre-deux.
OK, puis ton poisson, est-ce que le poissonnier, il t'offrait du poisson de temps en temps pour faire tes sushis ou c'est vraiment toi qui achetais tout puis qui faisait tout à la main? Là?
Ben on utilisait les mêmes fournisseurs.
OK.
Fait que lui, quand il commandait pour sa poissonnerie, moi, je commandais pour, tu sais, mon petit comptoir de sushis.
Puis dans le temps, tu faisais-tu des revenus? T'avais-tu de l'argent un peu?
J'avais pas de sous, mais là, j'arrivais à brasser des sous puis à survivre. Là.
OK.
Fait que... Puis à un moment donné, ça s'est mis à beaucoup mieux marché.
Okay.
Puis là, avec le 10%, j'avais fait des calculs là, que tu sais, je payais beaucoup trop loyer pour vraiment l'espace que j'avais. Fait qu'il y avait un petit local de libre sur la rue Cartier, près de la rue Saint-Sacrement, là, vraiment dans le bas de la rue Cartier. J'ai loué ce local-là. J'ai peinturé moi-même, j'ai fait les travaux moi-même. Puis j'avais convaincu un vendeur d'équipements de restauration de me financer... 3 équipements nécessaires que j'avais besoin. Une espèce de comptoir sur glace, une espèce de grosse machinerie commerciale, puis un lave-vaisselle. Il me l'avait financé sur 12 mois.
Okay.
Et puis, j'étais planifié pour ouvrir le 31 août 2000, mon sushi taxi, mon premier vrai pignon sur rue.
Ouais.
Je m'étais organisé avec ma mère qu'elle vienne dans mon local au 813 quartier, attendre la livraison de, justement, mon frigo et tout ça que j'avais négocié, parce que la mère de ma fille est en train d'accoucher cette journée précise-là.
C'est bon.
Ma fille est née le 31 août 2000.
Ah!
Sa mère et moi, on n'a jamais été ensemble.
OK.
Mais j'aime dire que c'est mon plus grand succès dans la vie.
OK.
Samar et moi, on n'a jamais été en cours, on n'a jamais été en médiation. Malgré qu'on a des personnalités aux antipodes, on s'est toujours entendu.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai eu ma fille une semaine sur deux toute ma vie.
OK.
Même pendant un certain temps, à temps plein. Puis ma fille va très bien, puis elle n'a jamais senti d'animosité entre ses parents, puis au contraire, là, fait que okay. C'est ça.
Fait que vous avez jamais été en couple ensemble? Non. Là, en ce moment, t'es pas en couple non plus? Ou
oui, mais okay. Moi, j'ai une blonde, ça fait 10 ans.
OK.
Mais j'ai jamais été en couple avec la mère de ma fille.
Ah ouais, fait que ouais. C'est arrivé avec une expérience de jeunesse.
Exact.
OK. C'est bon, puis vous avez décidé de le garder pareil, c'est...
Je t'avoue, à l'époque, que j'étais un célibataire très endurci, okay. Puis ça faisait pas mon affaire.
Okay.
Puis la mère de ma fille, elle, c'était contre ses valeurs, puis tu sais, elle voulait pas se faire avorter. Il y a pas une journée dans la vie que je la remercie pas de ça, honnêtement. Okay.
Ouais, ben, parce que ça fait ta fille qui est maintenant en technique policière, c'est ça?
Ouais. Okay. Hey, je me rappelle encore... de partir de l'hôpital Saint-Sacrement à 5h10 du matin à pied pour me rendre à mon appartement le 31 août, puis de me dire « Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas une scène. Je sais même pas si ma petite business, ça va marcher.
Ouais.
Mais je suis une affaire. Je vais être un de bon père. »
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ta fille est née. Puis après ça, là, ça a commencé à bien marcher ton restaurant ou y avait-tu du monde qui venait pour te commander des affaires? C'est quoi qui se passait là, à ce moment-là?
J'ai été, je te dirais, pendant 2 ans, là. J'ai été 1 an et demi à monter la business tranquillement, pas vite. Puis tu sais, on avait des revenus qui étaient bien. Puis à chaque semaine, ça montait, tu sais, okay. Les ventes montaient. Puis rapidement, mon TDAH a fait surface. Là. Tu sais, je me suis dit, je ne serais pas cuisinier toute ma vie parce que ça me reflète pas, puis ça devient trop routinier.
Mais dans le temps, tu faisais-tu encore les deux, là, livraison plus cuisine, ou
j'avais embauché un employé, okay. En cuisine pour m'assister. Et puis, j'avais embauché aussi un livreur. Okay. Moi, je travaillais 7 jours sur 7 en cuisine.
Okay.
Puis là, ben, je me suis dit... Je vais essayer de devenir un homme d'affaires. Puis il y a des opportunités, je vais en ouvrir un autre. Fait que ça a démarré comme ça. J'ai ouvert un autre sushi taxi à Sainte-Foy,
ouais.
Sur la route de l'église, la deuxième année, là, après 2 ans d'existence, sans trop être structuré aussi. Là, okay. J'étais un autodidacte homme d'affaires. Et ben, j'ai ouvert à Sainte-Foy un deuxième.
Puis dans ce temps-là, ça marchait-tu beaucoup, là, ou t'avais encore peur de que ça marche pas trop? Pis...
C'était quand même très modeste.
OK.
Très modeste. J'ai pris mes premières vacances après 2 ans et demi de travail à Sushi Taxi.
OK.
Je me tirais 250$ de paye par semaine. Vécu avec plus que ça. Puis là, on avait eu des bonnes semaines. Mes premières vacances après 2 ans et demi, j'avais pris... l'argent dans la caisse, j'étais écœuré, c'était mes premières vacances. J'étais allé aux îles Turquoises, j'ai tout le temps été un maniaque de plongée sous-marine, okay. Je m'en allais là tout seul aux îles Turquoises. Et je me rappelle, j'avais eu un fax de Nils, mon employé à Cartier.
Okay.
Nils, 6 pieds 5, 260 livres. Il a travaillé pour moi pendant 15 ans à Sushi Taxi, d'ailleurs il est encore là.
Ah oh, ouais.
Il m'envoie un fax et me dit « Peux-tu me téléphoner parce qu'on a eu un petit dégât d'eau puis je me demande si ça serait pas mieux que je ferme. »
OK.
Fait que j'appelle Nils. Là, Nils, il était un gars qui bégayait en plus.
OK.
Vraiment, tu sais. J'ai dit « Ben, Nils, raconte-moi ça. » Il dit « Ben, je prends l'autobus, tout ça. » Il dit « Quand je débarque de l'autobus, il y avait une rigole. » OK. Il dit, j'ai monté la rue Cartier, blablabla. Il dit, là, je me suis rendu compte que la rigole, c'était une rivière, mais elle sortait de la porte du sushi.
Et c'est bon.
Là, je dis, OK. Puis j'ai dit, comment il y a d'eau dans le sushi? Il dit, ah, il y a à peu près 3 pouces d'eau. Ah, ben, c'est pas si mal. J'ai dit, le sous-sol, lui. Il dit, ah, le sous-sol, man, il est plein. Là, j'ai dit, garde, sors de là, appelle Calinette, ferme ça, puis appelle un électricien, ça presse.
Ouais.
Parce que tout va sauter, tu sais. Et on était fermés pendant un mois. Okay. Il a fallu refaire tout scrapper de A à Z.
C'était quoi qui s'était passé finalement?
Le main de plomberie, le tuyau principal qui amenait l'eau à la bâtisse qui a rompu durant la nuit. C'était l'enfer. Fait que c'est ça.
Puis là, toi, t'étais en voyage, t'étais en vacances. C'est quoi qui s'est passé là-bas? Là?
Ben écoute, il avait appelé les assurances, puis il avait appelé Calinette, puis ils ont fermé jusqu'à temps que je revienne.
OK.
Puis, c'est ça.
OK, c'est bon. Puis, t'as-tu aimé ça, ton voyage? C'est quoi? T'as-tu eu des belles aventures? T'étais seul? Je sais que voyager seul, c'est différent que voyager à plusieurs. C'est absolument, t'es confronté pas mal à ta propre personnalité, avec tes pensées. C'est quoi?
J'ai voyagé beaucoup seul dans ma vie, moi.
OK.
Plus tard, tu sais, quand vraiment c'est devenu, ça a pris vraiment de l'ampleur, ma business sushi taxi, je partais une semaine par mois seul.
Okay.
Ça, j'avais monté une structure de travail que je pouvais travailler partout dans le monde avec mon laptop. Fait que je te dirais, j'ai été quasiment 4 ans. Là, je partais une semaine par mois quelque part dans le monde. J'ai voyagé beaucoup seul.
T'as fait combien de pays environ?
Bah, je sais pas, moi, peut-être 70.
Ah ouais. C'est quoi tes coups de cœur? C'est quoi tes coups de cœur de pays?
L'Inde est le pays qui m'a chamboulé totalement.
Pourquoi?
De voir la misère humaine, de voir de la lèpre, d'avoir jamais vu des gens aussi heureux dans ma vie, aussi attentionnés. Des gens qui ne savent même pas s'ils vont manger ce midi, qui pourraient nous donner une leçon de bonheur. C'est incroyable.
Okay.
Je suis allé au Japon 7 fois. J'adore le Japon.
OK, c'est ça que c'était ma prochaine question. T'es allé au Japon, puis t'as-tu goûté les sushis là-bas?
J'ai mangé des sushis matin, midi, soir.
Ah oui, ouais?
Au Japon. Je suis allé 7 fois au Japon. J'adore le Japon. Tokyo, c'est une ville extraordinaire. Es-tu déjà allé à New York?
Oui, je suis déjà allé à New York.
Écoute, si t'aimes la ville de New York, il y a 2 autres villes du genre qui sont hallucinantes. C'est Londres puis Tokyo.
OK.
Tokyo, c'est une ville avec tellement d'énergie, tellement de raffinement, tellement de... C'est buzzant, c'est très...
Ah, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, tu es revenu de voyage, tu as dû faire les réparations du sushi taxi. Après ça, c'est ta compagnie, est-ce qu'elle va de mieux en mieux ou est-ce que ça a droppé suite à cet accident-là?
Non, je te dirais, les ventes ont monté. Moi, j'apprenais à devenir un homme d'affaires. Je lisais beaucoup... pour devenir un meilleur homme d'affaires. Et puis, j'en ai ouvert un 3e, j'en ai ouvert un 4e, un 5e, j'ai grandi l'équipe, un 6e, et ainsi de suite. L'entreprise, c'est tout le temps de mieux en mieux structurée. Moi, j'ai appris de plus en plus à devenir un homme d'affaires. Et puis, j'ai grandi cette entreprise-là, je te dirais, jusqu'à janvier 2016.
OK. Ça fait pas longtemps que tu l'as vendu. Là.
Exact. En janvier 2016, je suis allé en Eliski avec des amis, puis j'ai fait un accident d'hélicoptère.
Ouais.
J'ai vraiment pensé mourir. Ça a été vraiment un moment où je me suis reposé sur moi à me dire, bon, ça aurait pu finir là, puis ça aurait pas été drôle parce que j'en ai pas assez. Okay. Il y a des affaires que dans ma vie... c'est plus droit, puis je suis moins heureux. J'étais plus heureux à Sushi Taxi.
Okay.
J'allais au bureau le matin, puis j'avais le goût de vomir. J'étais écœuré. Fait que j'ai décidé de vendre.
Okay.
J'ai vendu l'entreprise en août 2016, alors qu'il y avait 19 restos, tout près de 350 employés.
Okay. C'était quand même un bon business.
J'avais jamais eu 200$ de marge de crédit. Ni de financement.
Puis là, tu devais vendre tout l'ensemble de Sushi Taxi à quelqu'un. Là. C'est quoi? C'était-tu des offres de personnes que tu as refusées? C'est quoi? À force là, d'avoir des offres, c'est qui que t'as accepté? Là?
J'ai. Ben, tu sais, on vend pas une compagnie comme on vend une maison. Là. Mm-hmm. J'avais vraiment mandaté une firme spécialisée là-dedans. Puis c'est un fonds d'investissement français avec un Français de Bordeaux et le Fonds de solidarité de la FTQ qui ont acheté ma business.
OK.
Alors, j'ai vendu en 2016, en août 2016, l'entièreté de mes activités.
Ah ouais. Puis, ça t'as-tu fait un bon revenu ou c'était pas encore assez à ce moment-là?
Ben pour te dire, on faisait tout près de 25 millions de chiffre d'affaires.
OK. C'est bon.
Fait que,
ça l'a là.
J'ai bien vendu.
T'as bien vendu. Puis là, en ce moment, Sushi Taxi vont encore très bien. Dans le domaine du sushi, ça va bien encore. Là,
Je t'avoue que je suis très, très distancé de ça, mais je pense que ça va bien. Là, puis que l'entreprise est encore en bonne santé.
Fait que maintenant, quand tu veux manger des sushis, tu t'es fait toi-même ou tu vas en acheter à quelque part?
Sais-tu quoi? Ça faisait 10 ans que j'avais pas fait des sushis.
Ah ouais.
Puis j'ai essayé 2-3 places, puis je réussissais pas à avoir le goût puis le trip que j'ai envie, puis je me suis remis à en faire.
Puis ça marchait.
Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est pas... quand tu sais faire quelque chose, c'est rare que tu sais plus faire de quoi. Mm-hmm. Là. Quand tu sais faire du vélo, même si t'arrêtes 2 ans, tu peux refaire du vélo, mais j'ai repris goût à en faire.
OK.
Ouais, vraiment, c'est un moment qui est cool, puis imagine même, ma fille n'a jamais mangé de sushi tout le temps que j'ai eu les sushis taxis.
Ah ouais.
N'a jamais mangé de sushi, elle n'aimait pas ça.
Ah ouais.
Et c'est rendu son mets favori, sacrifice.
J'espère. Fait que là, après avoir vendu, c'est quoi, t'avais plus de job, là, t'avais plus rien. C'est quoi qui t'a remis sa map? C'est quoi que t'as décidé de faire?
Un an avant avoir vendu, j'avais acheté le Centre Empire.
OK.
Et la boxe avait changé ma vie. Moi, ça faisait déjà. Je te dirais 5 ans que je boxais. Okay. J'avais rencontré François Duguay, Angelo à l'époque, puis ça avait changé ma vie vraiment. Mm-hmm. J'adorais. J'étais tombé en amour avec ça. Puis là, le gym avait fait faillite 2 fois en 6 mois.
OK.
Fait que, tu sais, je voulais pas devenir un coach de boxe ou faire des sous nécessairement avec ça. Je savais que c'était quand même un milieu qui était très précaire. Je me suis dit, je vais donner un coup de main à François Duguay à l'époque. Il était quasi dans la rue, là. Avec mon œil d'homme d'affaires, je vais remettre ça droit, je vais essayer de donner un coup de main comme ange financier pour aider, tu sais.
Okay.
Fait que j'ai racheté, à l'époque, il s'était fait mettre dehors de la bâtisse. Moi, j'avais négocié, j'avais été rencontrer le propriétaire que je connaissais déjà à Québec, parce que j'avais déjà été locataire avec Sushi Taxi dans un autre de ces bâtisses. J'avais dit, je suis prêt à te donner des garanties si tu renégocies le loyer.
Okay.
Alors, à l'époque, on a renégocié le loyer. Écoute, le Centre Empire, c'était 14 000 pieds carrés. C'est énorme.
Ouais.
Le loyer coûtait 17 000 par mois.
Okay.
Imagines-tu des abonnements à 60$ par mois? Comment que, tu sais, je veux dire, si tu fais le chemin inverse, là, ça ne marchait pas. Là.
Ouais.
Fait que j'ai négocié à 11 000 $ par mois le loyer avec un mais. Le mais, c'était si j'ai une entente avec le syndic de racheter les équipements. J'ai eu une entente avec le syndic. J'ai tout rénové la bâtisse. J'ai séparé la bâtisse en deux. J'étais allé chercher le locataire du vélo qui paye la moitié du loyer.
Okay.
Et puis là, on a démarré un sport-études. La première année avec une école, 4 étudiants, tranquillement, pas vite, ça a levé. On a ensuite de ça, basé sur l'idée du spinning. J'ai amené l'idée de faire la salle avec 30 sacs de boxe puis un cours beaucoup plus grand public.
Ouais.
Écoute, le Club Empire a pris ses ailes puis est devenu, en passant, c'est un OBNL, c'est un organisme sans but lucratif, mais c'est un qui va très bien. On a parti un projet avec le projet Intervention Prostitution de Québec puis on a permis à des gens d'en faire leur métier comme... François Duguay, Éric Martel, Ève Fortin et compagnie. Là. Fait que c'est ça.
Ouais, c'est le fun parce qu'en ce moment, ça marche très, très bien. Là. C'est au sommet de sa forme, là, le centre de boxe.
Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que là, t'avais le centre de boxe.
Ouais.
Tu faisais pas. D'après moi, tu faisais pas tant d'argent avec le centre de boxe à ce moment-là.
Ben, en fait, on n'en faisait pas, puis on n'en fait pas toujours pas, là. Mais ça arrive, on peut faire des projets. J'ai tout le temps eu confiance en moi. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je m'étais fait honnêtement la promesse de dire « Je veux avoir un tempo beaucoup plus relax. Je vais faire de la finance. puis je vais agrandir mon parc immobilier. J'ai quelques bâtisses, j'avais investi dans l'immobilier. Puis j'étais aussi sur des conseils d'administration. Fait que j'étais rémunéré dans des entreprises pour être sur conseiller. Là. Ma fille est en secondaire 5.
Okay.
C'était pas. Puis elle était chez moi une semaine sur deux, des fois 10 jours sur 14. C'était pas le moment de partir en voyage autour de la planète ou de mm-hmm. Puis j'étais. Je suis pas du type à jouer au golf.
Okay.
Fait que. Il y a un ami qui m'a parlé de ça. Un MBA au MIT à Boston. Je me suis inscrit à ça. J'ai posé ma candidature pour aller faire un MBA au MIT à Boston. Un peu inconsciemment. Je croyais pas trop. Je pensais pas trop
être choisi. Un MBA, c'est quoi?
C'est un Master in Business Administration. Okay. C'est comme une maîtrise vers l'administration des affaires. Puis là, je suis allé au MIT version techno.
Okay.
Fait que j'ai présenté un projet devant un panel de juges et tout ça, puis j'ai été accepté.
C'était quoi ton projet?
J'avais un projet de monter un organisme. C'est un projet fictif là, okay, que basé là-dessus, moi, j'allais monter une thèse, puis j'allais ensuite de ça coller tout le cursus d'apprentissage du MBA là-dessus.
Okay.
Fait que c'était un organisme de bienfaisance auquel toi, tu pouvais t'abonner. Puis à chaque fois que tu faisais un achat avec ton téléphone, avec ta carte de guichet, tu acceptais que ça arrondisse au dollar.
Okay.
Fait que si tu vas au Subway puis ça coûte 17,31, ça va te coûter 18, puis le 69 sous va être versé à un organisme de bienfaisance qui aide les jeunes de la rue.
Okay.
Fait que c'était fictif, mais c'est tout le temps quelque chose que j'ai eu au cœur, moi, d'aider les jeunes de la rue.
Okay.
Puis que je m'étais dit, je vais créer une business dans le style, puis c'est très techno. Ça va me permettre d'apprendre la techno dans mon cursus au MBA. Fait que je suis retourné à 40 ans faire un MBA au MIT à Boston.
OK. Puis là, rendu là, ta compagnie, tu faisais-tu des revenus? Tu faisais-tu. C'est quoi qui s'est passé là à ce moment-là?
J'avais aucune compagnie. Là. J'avais des investissements immobiliers que j'ai toujours eu avec les années qui grandissaient. Puis j'avais ensuite de ça le gym que. J'étais l'ange financier, là, tu sais, que c'est pas mon quotidien, puis je passe un après-midi par semaine à donner un coup de main, mais c'est tout. Fait que mon plan de match, c'était d'aller aux études puis de faire mon NBA. Je te rappelle que je m'étais promis de pas me repartir en affaires.
OK. Fait que là, t'as fini ton NBA, puis c'est quand t'es revenu, c'est quoi qui s'est passé, là?
J'allais à Boston 4 jours par mois.
OK.
Décidé à l'avance, tu sais. Puis j'avais des trucs à faire par moi-même, évidemment, à distance. Mais à force d'être là-bas avec des profs hallucinants, d'apprendre des choses que j'avais beaucoup faites pendant des années avec le flair, la business pour moi, j'avais enfin trouvé mon edge. T'sais, c'était moi, je suis le gars qui peut lire un livre de business à la plage parce que j'adore ça.
Ouais.
Je me sentais un peu comme un alcoolique qui dit à sa blonde, je vais aller au bar, je suis un ex-alcoolique, je vais aller au bar juste dire salut au chum.
Okay, ouais.
Ça a été ça, aller au MIT avec des entrepreneurs, des profs hallucinants, lire des affaires de business, ça a été plus fort que moi, je me suis reparti en affaires.
C'était reparti en affaires, puis là, c'est venu d'où l'idée là, de partir le bout de station?
C'est venu aussi simple que de mon style de vie où j'allais au bureau. J'étais en train de finaliser la transition avec Sushi Taxi, pardon. Et puis, je m'entraînais le midi de 11h à midi ou de 11h30 à midi et demi, puis je retournais au bureau régler mes affaires d'immobilier, de finances. Puis là, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce que je mange pour pas scraper mon entraînement?
Okay.
Tu sais, puis ça finissait que je me ramenais un sandwich de la maison, je mangeais ça dans l'auto en retournant au bureau parce que c'est pas vrai qu'aller au McDo, c'est santé. Même si tu manges une salade, il y a zéro élément nutritif là-dedans. Aller dans un comptoir santé genre cru d'essence, c'était trop compliqué. Ça goûtait à luzerne, puis il fallait que tu laisses l'hypothèque de ta maison tellement que ça coûtait cher. C'était pas pour moi. Fait que c'est parti de là, je me suis dit, moi, je vais régler ce problème-là dans la vie. Je vais partir un business qui va régler ce problème-là.
OK.
Fait que j'ai été le premier client, dans le fond, de cette business-là.
OK, c'est bon. Puis, c'est quand que tu as réussi à faire des revenus? C'est quand que tu as acheté ton local? C'est quand que tu as commencé ça, là, en gros, le principe là, de bout de station? Là.
Ben, dès le départ, j'avais un idéal de business, c'est-à-dire bien des affaires que j'avais vécues avec Sushi Taxi que je ne voulais pas revivre. Je ne voulais plus embaucher de cuisinier parce que c'était vraiment une gamme de travailleurs qui était dur à fidéliser. Il y avait beaucoup de roulements. C'était un métier qui était dur, qui était compliqué. Je ne voulais pas non plus signer des baux, avoir 19 restos puis investir des tonnes de sous à chaque place. Mais je savais que je voulais aller dans le domaine de la bouffe santé, de la techno.
Okay.
Puis je voulais, dans mon cœur, changer la façon dont les gens mangent. Rendre populaire la bouffe santé. Fait que ça a parti comme ça. J'ai loué un petit local au Hall de Sainte-Foy. Puis, j'ai créé un petit carte sur Internet techno pour payer. Puis, pour demander du feedback. Fait que j'avais créé un menu. Ce que je voulais, c'est savoir le price point, est-tu bon? Qu'est-ce que les gens aiment dans la bouffe santé puis n'aiment pas? Puis, être capable de monter une espèce de route de sous-traitant qui faisait toute la transformation pour moi.
Okay, fait que
moi, j'avais des employés qui faisaient juste le montage des repas final.
Okay.
Il n'y avait pas besoin de cuire, de cuire, de frire, de couper, de transformer rien, juste à faire du montage.
Okay.
Ça a commencé comme ça, humblement. Puis moi et mon équipe, on a appris plein de trucs. Puis là, ben la phase 2, c'était de dire, on va faire du traiteur. Fait qu'on a commencé à faire du traiteur dans les entreprises qui nous appelaient pour... Ils recevaient un client ou ils faisaient une réunion ou peu importe. Rapidement, on s'est rendu compte que le traiteur, c'était cool parce qu'on pouvait créer une relation avec l'entreprise vraiment. Mais il n'y avait pas assez de récurrence. Les entreprises sont comme nous, dans le fond. S'ils commandent du traiteur deux fois par mois, ce ne sera pas les deux fois du poulet. Ce qui fait partie du trip de la réunion, c'est de manger des choses différentes. Dans mon modèle d'affaires, c'était comme c'était hors de question que je me mette à transformer ou à cuire des affaires. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre quelque chose. Je suis allé m'asseoir chez des clients pour voir comment ça se déroulait le midi. Puis là, j'ai compris, la vraie business, c'est les employés. Puis il faut que je sorte un menu qui va se manger pas cher.
Okay.
Fait que je suis retourné à la table à dessin. On a créé des repas qui se gardent 7 jours.
Okay.
Et puis là, à partir de là, on a brandé un frigo, Bouddha Station. On a convaincu 3 entreprises qui nous faisaient confiance pour les lunch meetings de dire, on va vous rentrer au frigo puis on va remplir ça de lunch à toutes les semaines. Puis, les employés vont mettre leur nom sur une feuille puis on va les facturer quand ils prennent un repas.
Okay.
Ça a tellement bien marché que là, on a codé une application de paiement. On a fait brander vraiment un beau frigo. On a créé une gamme de repas. Et maintenant, on ne fait que ça à temps plein. C'est-à-dire, on fournit un frigo à une entreprise. On personnalise l'application. Mettons, Bouddha Station / Cossette Communication ou / KPMG ou peu importe. On le remplit à chaque semaine avec l'application. En temps réel, on a les inventaires du frigo. Les employés peuvent payer direct 10$, taxes incluses, leur lunch. Et là, ben écoute, la business est en explosion.
Puis là, dans le fond, t'as-tu 2 succursales? T'as 2 restaurants en ce moment ou t'en as plus?
Présentement, on a 2 succursales.
Ouais. Sur quartier, si peux-tu?
Oui.
Okay.
Ces succursales-là avaient été vues plus pour véhiculer le nom, comme un peu un pop-up shop. Puis là, les halls de Sainte-Foy vont fermer d'ici la fin février.
Okay.
Et d'ici la fin avril, quartier va fermer.
Pour juste te concentrer sur le...
Parce que déjà, là, 98% de nos revenus, c'est que les repas qu'on envoie dans les entreprises. Et puis on fait l'assemblage et le montage de ça dans une cuisine industrielle qu'on loue en ce moment.
Okay.
Et donc, en avril, on va déménager dans un siège social qui va être un endroit où on va avoir les bureaux, où on va avoir vraiment de l'entreposage réfrigéré, on va avoir un dock d'expédition pour les vannes qui viennent et compagnie.
OK. Puis, en ce moment, est-ce qu'il y a des clients qui achètent par Internet des repas ou c'est vraiment plus rare ce genre de...
Ben en fait, c'est justement, nous, avec le processus de marketing, on fait parler de nous autres sur Internet. Les gens remplissent un form pour dire « Hey, on serait intéressé à avoir un frigo dans l'entreprise. » Comme les gens ont une machine à café dans leur entreprise, ouais. Les gens ont catché que c'est cool d'avoir un frigo avec de la bouffe qui dépanne. Mm-hmm. Et là, au processus des ventes, on fait les tests, on clôt le deal, on fait un lancement à même le staff. Puis après ça, c'est parti. Mais on ne vend pas directement aux particuliers. Okay. On ne fait que servir les entreprises qui deviennent des clients à chaque semaine.
Puis, t'en as-tu des grosses entreprises qui sont affiliées avec vous ou c'est vraiment plus des petites entreprises?
Notre client type fait entre 50 et 200 employés.
OK.
Mais on sert aussi des entreprises qui ont plus de 300 employés qui sont
quelle grosse entreprise que vous servez?
Coveo, qui est une entreprise extraordinaire. Okay. Ensuite de ça, ABB, qui a 500 employés.
Y a-tu Desjardins, ça se peut-tu que vous en fassiez?
Desjardins, on n'est pas au siège social, mais on a certaines succursales de okay. Desjardins. On n'est pas au siège social encore. On est chez Cossette Communication, qui ont 400 employés, qui sont sur 8 okay. étages. On est chez Lune Rouge, qui sont 400 employés.
Parce que moi, je sais que l'ami à ma mère, elle travaille à Desjardins, puis elle prenait juste du bout de station il y a un temps, là, où est-ce okay. qu'il y a quelques temps, là, elle prenait quasiment juste ça. Puis, je pense que le moment où est-ce qu'elle a arrêté d'en prendre, c'était parce qu'elle trouvait que c'était pas assez. Vous aviez diminué la portion.
Okay.
Puis ça, elle aimait ça avoir des plus gros formats pour le même prix. Mais je sais qu'elle travaillait pour Desjardins. Fait que,
elle était peut-être dans le temps qu'on faisait plus des lunch meetings.
Hein? Ouais, probablement.
Surtout que maintenant, tu sais, tout est standardisé, nos trucs. Ouais. Je saurais pas de quoi te répondre, mais... on a effectivement vraiment des beaux clients.
OK.
Ce matin, dans le journal, il parlait de APN Global qui font des pièces de précision pour l'aéronautique.
Ah ouais.
Sont nos clients.
Puis comment moi ça m'intrigue toujours le marketing par les réseaux sociaux. C'est comment là est-ce que tu as une équipe qui gère ton marketing ouais. des réseaux sociaux ou comment tu développer le marketing des réseaux sociaux là? C'est quand même nouveau là, t'sais, les entreprises là, ça fait pas longtemps que les réseaux sociaux là, Instagram, toutes les autres réseaux sociaux sont vraiment dans le game là, ils font partie de la game. Si tu fais pas de promotion sur les réseaux sociaux, tu as moins de chances de percer avec ton
absolument.
Entreprise.
Là. Absolument. Mais chez nous, j'ai deux personnes au marketing à temps plein.
Okay.
Et puis, on a vraiment une stratégie. Et d'ailleurs, la stratégie pour moi, c'est de ne jamais essayer de vendre.
Okay.
Il n'y a rien de pire sur Internet. Imagine-toi quand tu vas sur Facebook ou Instagram de te faire présenter des offres, puis ci, puis ça. Tu ne veux pas voir ça ouais. dans ton feed. Fait que tu veux voir du contenu qui est cohérent avec le brand et qui est cool.
Okay.
Sans ça, oublie ça, t'es flush, là. Mm-hmm. Fait que tout part de là. Puis tranquillement, pas vite, tu te fais un nom. Par exemple, on a un channel où c'est LinkedIn. Sur LinkedIn, ben, on parle d'enjeux d'affaires. On parle jamais de notre business, mais on parle d'enjeux d'affaires. Les gens qui nous trouvent intelligents, là, ils voient qu'est-ce qu'on fait dans la vie.
Mm-hmm.
Puis ils vont consulter, ils arrivent sur notre site web. Quand ils arrivent sur notre site web, on a des cookies, puis là, on leur envoie des offres.
Ouais.
Même affaire, sur Facebook, on célèbre nos clients. Fait que, okay. Au lieu de parler de nous, on parle de nos clients. Hey, imaginez si vous travaillez chez Coveo, vous feriez X, Y, Z choses. En plus, cette année, ils ont fait ci, ça, ci. Les gens ne le savent pas. Puis là, ils font comme, hey, c'est donc bien cool de découvrir cette entreprise-là.
Mm-hmm.
Fait qu'on ne parle pas de nous. Puis ça finit tout le temps en disant, pour avoir de l'énergie, en tout cas, ils ont trouvé la bonne façon. Okay. Ils ont un bout de frigo.
Okay.
Fait qu'on est tout le temps dans le contenu plutôt que dans la vente.
Mm-hmm.
On fait parler de nous tranquillement, pas vite. On fait des événements aussi. Lors des événements qui ont rapport avec notre public cible, par exemple le défi entreprise qui est un 10 km qui se fait à chaque automne, chaque printemps pour des gens en entreprise. C'est une compétition entre entreprises.
Mmh.
On fait le sommet du leadership conscient à Québec, à Montréal. Fait que, ce qui a rapport avec les entreprises qui prennent soin des employés, on est là. Fait que c'est toutes des activités, c'est toutes des pour nous des points où on se fait voir pour justement ultimement susciter l'envie d'employés ou de gens au RH à avoir ce service-là.
Ça fait que là on a quand même remonté là, de, de toute ton enfance jusqu'à tes entreprises. As-tu des projets futurs? Y a-tu des futurs voyages que tu veux aller, des voyages d'affaires? Y a-tu des entreprises que t'aimerais, ton entreprise Bouddha Station, tu voudrais-tu la monter plus haut? C'est quoi l'Empire FC? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes...
Ben, la chose qui est certaine, c'est que c'est ma dernière fois.
Okay.
Là, plutôt que de faire la promesse à moi tout seul, là, je l'ai dit à tout le monde, c'est la dernière fois.
OK.
Et puis, je me souvenais plus comment c'était tough de repartir une business, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. C'est ça. Je suis retombé dans un rythme de travail qui n'a pas de sens pour mon âge, puis c'est fou. Ça fait 2 ans maintenant, Bouddha Station. Je vais la rendre au bout. Je vais faire 10 ans minimum.
Okay.
Dans ma tête, c'est 10 ans. J'ai une vision de 10 ans. On est partout au Québec en ce moment. D'ici la fin de l'année, on va être en Ontario.
Okay.
Et l'an prochain, définitivement, déjà, on va être aux États-Unis.
Okay.
Je veux toucher 1 million de personnes par mois. Okay. Avec cette entreprise-là.
Puis là, tu es à combien en ce moment?
En ce moment, on doit être tout près de 50 000 personnes.
OK. Fait que là, c'est quand même un objectif de taille. Il faut le faire pareil. Là.
En business, j'aime dire « it's a big, hairy dream ».
OK, c'est bon.
Mais c'est ça, c'est important d'avoir une vision puis de savoir ouais. où on s'en va. C'est ma vision avec Bouddha Station. Je m'en vais là. Mettons, la prochaine année, mon objectif, c'est vraiment d'avoir la meilleure équipe au monde, de okay. m'entourer de la meilleure équipe au monde. Pour être capable de retourner à un pace de vie équilibré, ouais. disons. J'allais okay. dire normal, mais je suis un intense, là. Fait que les bits de vie normales, c'est probablement pas pour moi, mais
ouais.
un bit de vie plus équilibré.
Puis pour l'Empire Academy, là, c'est quoi que tu souhaites là, pour. C'est quoi que tu souhaites pour le faire grandir? C'est quoi que tes projets futurs avec l'Empire Academy?
Ben, l'an passé, on a parti un aire d'entraînement à l'extérieur.
Okay.
L'objectif, c'était vraiment de garder les membres l'été, parce que mm-hmm. les membres ont le goût d'aller à l'extérieur ouais. l'été. On voyait, tu sais, beaucoup une évasion des membres l'été, c'était tough. On a fait la salle du Empire FC, puis en plus, on a rénové le club aussi dernièrement. Mm-hmm. Mon objectif, c'est vraiment d'être capable de démocratiser la boxe, d'en amener à une espèce de réflexion que les gens, quand ils veulent se remettre en forme, il n'y a pas juste aller au gym puis s'abonner 3 mois puis abandonner. La boxe, c'est un sport qui est le fun.
Très complet.
Qui est très complet.
Ouais.
Je pense qu'on est capable d'amener le club de boxe à 1000 membres.
OK, à 1000 membres. Parce que là, en ce moment, on a franchi les 400.
On est à ce matin même, 428 membres.
OK. Puis.
Et j'ai acheté l'Empire Academy en faillite.
Ouais.
Il y avait 64 membres.
C'est pas quand même. Puis, pour 1000 membres, tu penses-tu qu'il va falloir agrandir l'Empire? Comment tu vas.
On va kicker out le vélo.
C'est bon. C'est ça ton projet, qu'on. Tu reprendrais la totalité du...
Quand le bail va être fini, là, quand le bail va être fini, si on était à 600 membres, mettons, là,
okay.
là il y aurait un équilibre, on serait à serre, on pourrait les kicker out, doubler la superficie.
Parce que, tu sais, moi, en travaillant là-bas, il y a des soirées où est-ce que je vois, là, où est-ce que...
Ça déborde, hein?
Il y en a, là, du monde. Tu sais, quand on est... Il y a une soirée où est-ce qu'on était à 130, quasiment, 150, dans... T'sais, c'est oui, on est gros, mais à un moment donné...
Tu te sens au centre d'achat dans le
ouais,
temps de Noël.
C'est ça. Là, moi, je me souviens, il y a une soirée là, où est-ce qu'on était quasiment 130 là, à être venu toute la soirée. En bas, où il y a du monde qui cherchait des spots. Là, il y a du monde qui cherchait de la place. Puis c'était bourré partout. T'sais, au moins, ça marche. C'est ça qui...
C'est un beau problème à régler.
Ouais, c'est ça. Puis pour l'agrandissement, c'est que ça ferait plus de place pour tout le monde. Puis il y aurait possibilité d'ajouter des cours même. Puis,
absolument.
Ouais, d'ajouter de l'espace, entre autres.
Définitivement. Fait bon. Que c'est ça la vision pour l'Empire, mettons, pour les 5 prochaines années.
Puis pour toi, là, pour Christian, là, c'est quoi que tu souhaites? Là,
ben là, moi, ce que je souhaite, c'est un, avoir la santé.
Ouais.
J'ai été beaucoup éprouvé. J'ai eu un ami proche dernièrement de mon âge qui a eu un diagnostic dégueulasse de cancer du pancréas.
Okay. Ouais.
Je souhaite avoir la santé, je souhaite relaxer mon pace parce que moi, je travaille à peu près 70 heures semaine, c'est déraisonnable.
Mais en même temps, tu t'aides pas non plus. La dernière fois, tu me disais là, que je suis allé faire du vélo de montagne, puis là, je viens m'entraîner à 5 heures du matin, hop, je suis au bureau. En même temps, là, t'aimes ça, là, t'sais, être tout le temps actif. Là.
En fait, je suis un intense.
Ouais.
Je veux justement baisser le travail, me créer une team de vraiment hot pour être capable de déléguer le plus possible, mais justement de reprendre mon tempo, là, d'être capable de voyager puis prendre du temps pour moi, là, c'est prioritaire dans la prochaine année.
Okay.
Ça, c'est définitif.
Ouais.
Puis d'ailleurs, j'ai donné à Noël, le cadeau de Noël à ma fille, c'est de dire 3 mois à l'avance, tu me dis quelle semaine, puis tu choisis la destination. C'est ton cadeau de Noël.
Ah ouais.
Okay, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va choisir.
OK, parce qu'elle n'a pas encore choisi.
Elle n'a pas encore choisi. J'attends qu'elle me colle la shot. J'ai dit, faut que tu me le dises 3 mois à l'avance. On part entre 1 semaine et 10 jours, puis tu me dis où.
Ah, ouais. Ah, parce que moi, ça m'intéresse vraiment les voyages, parce que je m'en vais en voyage cet été avec 3 de mes amis.
Cool.
Fait qu'on on va aux Bermudes.
Oh, wow.
Ouais, c'est ça. Les Bermudes, c'est comme dans le sud de la Floride, là. C'est comme une île. Puis, non, c'est ça m'intéresse vraiment. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, je fais un podcast avec une fille qui a vraiment beaucoup voyagé.
Okay.
Puis, je trouve que en ce moment, là, pour des jeunes de notre âge, pour n'importe qui, c'est une nécessité de voyager. Puis là, on parle, tu sais, d'enjeux environnementaux. Puis, tu sais, je suis un des gars qui fait le plus attention. Mais j'écoutais une entrevue d'un gars qui voyage beaucoup, qui parlait, tu sais, de l'avion, parce que ça dépense beaucoup d'énergie, puis il y a beaucoup de pollution avec les avions. Il disait, c'est peut-être mieux de voir le monde, comprendre le monde, voir notre situation, tu sais, les enjeux là, partout de la société, ouais, partout ailleurs, puis de faire attention à tout le reste de ton environnement, puis de prendre, tu sais, l'avion une fois de temps en temps pour aller voyager.
Je connais pas les stats, là. D'après moi, quelqu'un qui a une voiture qui apprend tous les jours, c'est pire que de faire 2 voyages par année. J'aimerais ça lire là-dessus, là, mais... Puis d'ailleurs, ma fille, l'été passé, elle a ramassé ses sous. Elle est partie avec sa meilleure amie 1 mois en Thaïlande.
Okay.
Papa, il a zéro aidé. Moi, j'ai donné un cadeau, c'est un pack-sac.
Ouais.
Ils sont partis les 2 filles 1 mois en Thaïlande.
Mais je sais que la Thaïlande, puis tu sais, l'Asie du Sud-Est, là, c'est vraiment là, un endroit incroyable pour aller pack-sack. C'est comme un incontournable pack-sack, là, Thaïlande, Vietnam, Laos, exact, et tout. Là, c'est tout ce coin-là. Moi, c'est sûr que ça m'intéresse là, dans mon futur proche. Là. Mais je sais que tu sais, nous, cet été, on part 4 amis de 17 ans.
Cool.
On va aux Bermudes. Puis,
Lu sur les Bermudes?
Ouais, j'ai lu full pin. J'ai vu.
Tu vas peut-être disparaître dans un avion.
Ouais, non, mais en tout cas, tout a l'air clean. Tout est beau, mais les plages sont incroyables. Puis, tu sais, nous, on s'était dit, tu sais, on part là, on y va un peu plus sécuritaire. Fait que, tu sais, on va être dans un Airbnb. Tu sais, côté logement, on va être correct. Mais on va pareil y aller backpack. T'sais, on va juste apporter un sac pour se préparer un peu à un prochain voyage dans l'année qui suit pour faire un peu plus backpack, là, un peu plus redneck. Là.
En tout cas, le X, tu veux parler de voyage à un moment donné, n'importe quand tu me réinvites à ton podcast, je vais t'en compter des miettes et des pommures sur 50 pays, si tu veux. Là.
Mais c'est ça, je me disais, là, t'as sûrement là, des anecdotes. Là, pis, moi, je sais pas si tu connais, mais il y a un voyageur très connu, là, Guillaume Sans Destination.
Ouais.
Je l'ai écouté dans un podcast récemment, puis je trouvais ça incroyable, ces histoires là, d'un voyage. Je suis comme... lui, là, tu sais, il voyage depuis 12 ans, 6 mois par année.
Ouais.
C'est incroyable. Là.
Écoute, j'en aurais à te raconter, là.
Ouais.
Incroyable.
Mais...
Le shérif au Honduras avec le couteau en dessous de la gorge, obligé d'acheter un scooter. L'espèce de vendeur de tapis en Turquie avec mon chum Jacques qui avait été contraint d'acheter un tapis et qu'on n'avait rien à battre. L'air climatique qui marchait pas à Marrakech. Des anecdotes, mon gars. Là,
mais ce que moi, j'aime ça raconter des anecdotes. J'adore raconter des anecdotes. Puis je me disais, le seul moyen d'avoir des bonnes anecdotes, puis tu sais, de m'épanouir dans mes anecdotes aussi, c'est d'aller voyager puis ça dépayse sur un instant là, tu sais, ouais,
définitivement
ça te fait voir autre chose que ton petit Québec là, où est-ce que t'es habitué de vivre là depuis longtemps. Tu sais, ça te fait voir autre chose là, de la vie là.
Définitivement. Et moi, tu sais, tantôt on parlait de l'Inde, je te disais, quand j'ai eu 40 ans,
ouais.
Ça fait 12 ans que je fais des voyages de ski avec la même gang. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai voulu aller faire du ski dans l'Himalaya.
Okay.
Et puis l'Inde, ça ne m'avait jamais attiré.
Mm-hmm.
Puis quand on est arrivé à la porte de l'Himalaya, à Srinagar, la première journée, l'hélico s'est crashé. Puis il y a eu 3 Suisses du groupe juste avant nous autres qui sont morts.
Okay.
Ils ont fermé l'opération. On n'a pas ski.
Ah ouais.
Mais skier une journée, ça a été terminé. J'étais 9 jours en Inde. On est retourné vers Delhi, puis là, j'étais comme en vacances. Soit je reprends l'avion, puis je rentre, ce qui serait stupide.
Ouais.
Ou bien je découvre l'Inde.
OK.
Ça a été fabuleux, mon gars.
Puis t'as vécu des beaux moments là-bas.
Ben, écoute, j'ai même été dans une ONG faire du bénévolat pendant 3 jours.
Mm-hmm.
Dans un favela, à enseigner la musique.
Ah,
pour
ouais.
Découvrir les gens, pour vraiment comprendre, sentir, vivre avec eux autres. C'est quoi l'Inde? Okay. Ça a été, mon gars... Ça a changé ma vie.
Puis, t'aimes beaucoup ça, la musique? T'en fais-tu? Est-ce que c'était quelque chose que t'aimais dans le temps? Là?
J'ai joué de la guitare.
OK.
D'ailleurs, tu me demandais qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines années. Je veux apprendre l'espagnol comme il faut.
OK.
J'aimerais ça être trilingue.
OK.
Puis, me remettre à la guitare.
OK. Ah ouais. Non, mais moi, j'adore la musique, puis tu sais, j'écoute toutes les sortes de musique, là, tout le genre de musique. J'adore la musique, c'est comme le classique, je peux en écouter longtemps, du jazz, du rock, tout ce que tu veux, du rap. Tu sais, je peux, dans ma playlist, là, ça peut passer du classique à du rap anglais. Là, ça,
ouais.
Ça, je peux vraiment écouter de tout. Puis je trouve que, tu sais, moi, avant, je faisais beaucoup de guitare, je me suis mis un peu à faire du piano, fait que... Puis, tu sais, je trouve que ça te sort dans... Tu sais, ça te met dans un monde où est-ce que tu peux faire ce que tu veux puis ça t'entre dans ta bulle.
Ça te met le cerveau à off.
Oh, ouais, exact.
Puis c'est exactement le feeling que j'ai. Tu sais, tantôt, tu disais que t'es un intense, tout ça. Moi, la boxe, c'est une heure où j'ai le cerveau à off.
Ouais.
Ah, c'est tellement précieux dans ma vie, tu peux pas t'imaginer.
Mais c'est ça, ben, tu sais, moi non plus, j'ai jamais pris de drogue. Puis je me dis tout le temps... Ma drogue, moi, c'est le sport. Tu sais, ça fait 5 ans que je fais du sport, 7, 8, 9 fois semaine. Tu sais, avec le soccer, j'en ai eu longtemps, là, du 7, 8 fois semaine. Puis, moi, c'est une drogue. Puis, tu sais, quand j'arrive chez nous et que je suis de mauvaise humeur, mes parents me disent souvent, tu sais, après moi, tu devrais aller t'entraîner.
Ah, c'est
là.
Bon, j'aime t'sais, ça. Ma blonde fait pareil.
T'as l'humeur d'un gars qui a besoin de s'entraîner. Puis, quand je reviens, je suis comme. Je suis joyeux puis je suis plus en forme. T'sais, c'est vraiment quelque chose là, qui te rend là. Quand ça fait 2-3 jours que tu t'es pas entraîné puis tu t'entraînes tout le temps, c'est comme à un moment donné, là, ça vient. T'as besoin. Là.
Écoute, je me suis blessé à l'épaule l'an passé.
Ouais.
Puis là, j'allais chez le physio puis j'avais dit, je te le dis à l'avance, je vais pas arrêter. Fait qu'il va falloir que tu me guérisses actif. T'sais. Puis là, à un moment donné, là, c'était rendu ridicule. Je me tapais l'épaule pour aller jogger. Le bras de même pour pas que ça saute pour aller jogger. Puis là, à un moment donné, là, il dit, Christian, laisse-moi 10 jours là, parce que tu t'en sortiras jamais.
Ouais.
Après 8 jours, je suis assis à déjeuner avec ma blonde. Je pense que je vais aller voir un psychologue. Elle dit, comment ça? Je me sens déprimé. Je n'ai pas de bonne humeur. Je chiale tout le temps. C'est pas moi, ça. Il y a de quoi qui marche pas. Là, ma blonde, elle dit, qu'est-ce que t'as? T'es fou ou quoi? Va t'entraîner, là, puis on en reparlera dans une semaine. Je te dis, ça a été automatique.
C'est ça.
Ça a été, tu sais, c'est ça.
C'est ton désir de t'entraîner qui te rend de mauvaise humeur.
Mais en fait, c'est hormonal, là. Ouais. Tu sécrètes des hormones, tu deviens accro à ça, ça devient une drogue définitivement, là.
Mais moi, je dis toujours...
La dopamine, l'adrénaline que tu sécrètes quand tu fais du sport, elle devient nécessaire.
Moi, je me dis tout le temps que c'est mieux ça que prendre de la drogue. Tu sais, moi, je me sens plus buzzé quand je finis un entraînement que si, admettons, je fumais.
Ah ouais, comme, c'est ça.
Je sais pas c'est quoi, là, mais je sais que je suis buzzé à la fin d'un entraînement. Là. Je sais que que je suis bien. Là,
ben, c'est ton rush d'adrénaline.
C'est ça.
Prend ça.
Puis, je me dis tout le temps, moi, j'en ai pas besoin de la drogue. Quand je prends de l'alcool de temps en temps, je suis correct. Moi, j'ai bien du fun. Puis, that's it. J'ai pas besoin de plus que ça. Là. Mais, c'est comme, j'en ai pas besoin. Je vois pas.
Moi, j'ai des amis en janvier qui font 28 jours sans alcool. Ouais. Moi, j'aime rire de dire, moi, je fais 28 jours sans chips. Ouais.
Non, mais tu sais, mes parents, ils le font. Mes parents, ils le font mois de février, là. Puis, tu sais, eux, ils ont besoin de deux passe-droits, là. Tu sais, dans le mois, ils ont le droit de deux passe-droits.
OK.
Un pour la Saint-Valentin, puis un autre pour une soirée qu'ils ont, là.
OK.
Mais en tout cas, tu sais, c'est du monde qui aime boire en mangeant, qui ont l'alcool
heureux,
ouais. Puis qui aiment ça être ensemble, là. Puis quand t'es avec du monde, ils aiment ça boire un peu. Fait que c'est ça. En tout cas, on a réussi à divaguer un peu.
Mais sans farce, on a parlé. Moi, je venais ici de parler de ma vie. On a parlé de voyage, on a parlé de boxe. Ça a été vraiment intéressant, sérieux.
Tout fait le passage de tous les sujets. J'ai vraiment apprécié. C'était vraiment le fun. Écoute, je suis sûr que ça va marcher, là, ce podcast-là.
En tout cas, la gang qui est là et qui écoute, si vous êtes dans l'autobus ou dans l'auto, j'espère que vous avez trouvé ça trippant. Là. Vous irez le dire à Loïc. Ouais. Encouragez que son podcast il ait sa coche et qu'il faut qu'il continue.
Si vous êtes intéressé à découvrir le Bouddha Station, faites-moi en part. On verra pour le Bouddha Station. Sinon, si vous voulez venir au Empire Academy, n'hésitez pas à essayer de vous inscrire. C'est un immense centre de boxe qui est incroyablement le fun. L'ambiance est incroyable. Je vous conseille vraiment de venir vous entraîner ici. Sinon, mot de fin, Christian, qu'est-ce que tu veux nous dire pour un mot de fin? Là, pour des jeunes là, qui s'en vont au cégep, là, qui savent pas nécessairement dans quoi ils veulent s'en aller, il y en a qui savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent déjà être entrepreneurs. C'est quoi que tu dis à ces jeunes-là qui s'en vont au cégep? Là?
Moi, je dis essayez tout, goûtez à tout, lisez des trucs, puis mettez-vous pas de pression pour choisir tout de suite un métier. Allez où ce que votre cœur va vous mener. Si vous aimez la coiffure, là, devenez les meilleurs coiffeurs au monde, puis ça va marcher. Si vous aimez le jardinage, la même affaire. Si vous aimez patenter des affaires en électronique, ça va peut-être être l'ingénierie électronique, mais mettez-vous pas de la pression puis découvrez des affaires. Ça va bien aller.
Bon, ben merci Christian. C'était un super bon podcast. Je vais juste conclure avec, dans le fond, la semaine prochaine, je reçois une invitée qui va nous parler de voyage. Fait que ceux qui veulent entendre des anecdotes de voyage, ceux qui en manquent un peu là, de voyage, on va parler de voyage, juste de voyage pendant une heure. Fait que ça va être super intéressant. Une fille qui a beaucoup voyagé. C'est mon amie d'enfance aussi. Donc, je vous attends la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend où est-ce que vous êtes dans la journée. Puis, c'est ça. On se revoit à l'école ou ailleurs. Merci beaucoup. Et c'est ça.
Hey, salut la gang!